Moi, j'ai connu Mario comme étudiant à l'ETHEC quand même quelqu'un d'assez passionné par la Bible et la théologie. J'ai aussi été découvert comme musicien, comme performeur artistique avec une chorale quand même assez connue à Montréal. J'oublie le nom, mais je pense que c'est la Montreal Gospel Choir, qui est très connue. Par la suite, Mario s'est engagé comme ouvrier dans l'Alliance, dans un programme d'apprentissage en ce moment, comme Mélodie. Il est ici avec son épouse Judith. Nous vous accueillons avec joie. Et puis, je t'invite, Mario, à venir en avant. Sois béni. Sois béni. Je te passe le micro. Ouais.
Bonjour à tous. Merci de votre accueil à l'Oasis. J'ai rencontré Marc dans une conférence il n'y a pas longtemps, la conférence du district. Et j'ai un peu tordu le bras à Marc. Non, pas vraiment. Je n'ai pas tordu le bras, mais je lui ai laissé savoir que j'aimerais ça venir à l'Oasis. Et là, il m'a invité. Mais sur le coup, je n'avais pas réalisé que ce n'était pas seulement l'église de Marc, mais c'était aussi l'église de Kenzo, de Troy, de Timothy, de Mélodie, que Michel, l'ancien pasteur, était encore ici. Et donc, je suis un peu nerveux ce matin, mais quand même, ne vous en faites pas, on va survivre, car je sais en qui j'ai cru, et c'est de lui que je veux vous parler ce matin. Il y a quand même quelque chose de bien de prêcher devant ses profs. Il y a vraiment un bon côté de prêcher devant ses profs, et le voici, le bon côté, c'est que si jamais ça devait mal se passer ce matin, OK? Je pourrais dire comme Paul, mais l'évangile que je vous annonce, c'est celui que j'ai d'abord reçu. Et là, la question que vous poserez, c'est « Mais c'est de qui tu l'as reçu? » Je fais des blagues, mais je vais d'abord prier, et là, ça va vraiment me relaxer. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'Oasis, je te remercie pour cette belle église remplie de personnes qui t'aiment. Je te prie, Seigneur, de les toucher ce matin par ta parole, comme tu l'as d'abord fait, comme quand moi j'ai préparé ce message. Et donc, je te prie de parler à leur vie et de parler à leur cœur et de les rendre aptes à donner la raison de leur espérance, puisque c'est ce qu'on va regarder ce matin dans l'Épître, la première lettre de Pierre, et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Et donc, comment ça marche, ce machin? Je pointe où? Je pointe là? Oh! Donc voilà, c'est moi. Donc, comme Marc le disait, mon nom c'est Mario Coulomb, je suis apprenti avec New Venture, donc je travaille de près avec Troy et avec Jasmine au district. C'est ce que je fais depuis quand même un certain temps et que je vais faire jusqu'à la fin de l'année. Et ça, j'aime dire que cette slide-là, c'est mon côté lumineux. Tantôt, je vous montrerai un peu mon côté sombre, mais un côté sombre qui quand même a bien tourné. Donc, comment au Québec, en 2025, on peut encore parler de foi? Comment notre témoignage peut-il être crédible ou simplement entendu? L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous montre une voie profondément ancrée dans l'espérance, une espérance vivante qui transforme notre manière de vivre ici et maintenant. Et c'est dans ce contexte-là que je veux vous raconter une partie de mon histoire. Pas pour vous impressionner, mais pour vous montrer comment Dieu peut parfois agir concrètement dans nos vies et se servir d'expériences qui sont parfois difficiles, mais pour sa gloire. Donc, Pierre, dans sa première lettre, puisque c'est de Pierre qu'on va parler, Pierre écrit à des chrétiens dispersés en Asie mineure. dans des régions païennes, des chrétiens qui sont souvent marginalisés, mal compris. On n'est pas trop certain du genre, de la composition de l'Église, dans le sens où dans la lettre d'un Pierre, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, alors on pourrait penser que c'est quand même des Juifs convertis au christianisme, mais en même temps, il y a des versets comme au chapitre 2, le verset 10, où ça nous dit « Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Donc, on se pose des questions. Est-ce que, probablement que c'est une église assez mixte, en fait, mais c'était surtout, cette église-là était surtout connue non pas à cause de qui il était, mais à cause du milieu dans lequel il vivait. Les chrétiens d'Asie mineure étaient des chrétiens qui vivaient des épreuves, mais pas juste des épreuves de la vie courante, par exemple la faim, la maladie ou même la mort. Non, c'était des chrétiens qui vivaient des épreuves à cause de leur foi. Ces chrétiens-là étaient persécutés à cause de leur foi. Il y avait de la raillerie, il y avait des critiques. Ils vivaient dans un endroit où, en fait, leur foi dérangeait. Leur foi dérangeait. Et c'est là où il y a un parallèle intéressant à faire avec le Québec. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se sentent persécutés pour leur foi? Je ne vois pas de main, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'au Québec, vraiment, la persécution, on ne connaît pas ça. Si vous auriez levé votre main, je vous aurais dit, il y a des bons cours que vous pouvez prendre à l'ETEC, un cours d'histoire de l'Église, et vous allez voir, avec Dom Rousseau, par exemple, vous allez voir qu'on ne connaît pas ça, la persécution au Québec. Et les chrétiens d'Asie mineure n'étaient pas nécessairement, c'était pas de la persécution organisée encore comme sous Néron ou sous Domitien, c'était vraiment de la persécution de tous les jours. Ces gens-là avaient une foi qui dérangeait. Et le parallèle avec le Québec est intéressant parce qu'au Québec, on ne connaît pas la persécution, mais les gens trouvent que la foi, ça n'a plus sa place. T'sais, les gens ne voient plus l'utilité de la foi. Les gens trouvent que la foi, c'est archaïque, que c'est étrange. Certains peuvent dire que c'est peut-être parfois dangereux à cause de peut-être certaines quelques histoires qu'ils ont entendues dans les nouvelles. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, le problème, c'est pas ce que les gens voient, c'est ce que les gens ne voient pas. Et au Québec, les gens n'ont jamais vraiment vu qu'est-ce que la foi peut réellement changer à leur vie. Et donc, l'appel de Pierre au verset, au chapitre 3, je change les pages. L'appel de Pierre au chapitre 3, versets 15 et 16, est encore tout à fait approprié pour nous au Québec en 2025. Et sans doute pour toi, Tim, qui s'en va dans un pays où c'est pas facile de parler de la foi. Je vous lis le verset. « Soyez toujours prêts à défendre. » Et là, il y a un mot grec, je vais y revenir tantôt. « Défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » Autrement dit, Pierre nous invite à être capable de répondre à la question « Pourquoi ?» crois-tu encore? Je vous donne un exemple dans ma vie. Il y a 41 ans, j'étais au cégep. Et j'étudiais, en fait, étudiant au cégep, c'est vite dit, parce que je n'ai pas vraiment étudié au cégep. J'étais dans un domaine où c'était très facile pour moi. Alors, finalement, le cégep, pour moi, ça a été 2 ans de party. C'était ça, la réalité. Je n'étais pas encore chrétien à l'époque, je tiens à le préciser. Et je vous disais tantôt, je vais vous parler de mon côté sombre. Alors, mon côté sombre, c'est celui-là. C'est un bar qui s'appelait le Royal. Un bar auquel j'allais religieusement à tous les vendredis et tous les samedis. Je n'ai jamais manqué. Sauf une fois. Et cette fois-là, étrangement, j'ai comme entendu une petite voix intérieure qui me disait, mais est-ce que tu dois y aller encore? Est-ce que tu ne pourrais pas sauter un soir? Pas n'importe quel soir, mais ce soir. T'sais. Et c'était tellement bizarre que j'ai décidé d'écouter la petite voix. Et je ne suis pas allé. Et le lendemain matin, je me fais réveiller par le téléphone. Et c'est un de mes amis qui me dit, « Ah, oh, Marion, je suis tellement content de te parler. T'es correct, ça va bien, ça va bien. » Je dis, « Ben oui, ça va bien. Pourquoi ça n'irait pas bien? » Ben, il me dit, « T'as pas entendu les nouvelles? » Ben, il faut comprendre que dans mon temps, quand j'étais au cégep, Internet n'existait pas encore. Donc, on n'était pas, on n'avait pas des nouvelles qui arrivaient à toutes les trois secondes. La veille, dans ce bar-là, quelqu'un est venu avec un shotgun, un 12 tronçonné, et s'est mis à tirer dans le tas. Et a tué le DJ, son ami de cœur, d'autres personnes, blessé plusieurs personnes. Et moi, sur le coup, je me disais, mais non, mais c'est une coïncidence, tu sais, j'avais pas la foi à l'époque, je me disais, j'ai été chanceux, j'ai eu une intuition. Et c'est juste beaucoup plus tard, mais en fait, pas beaucoup, quelques mois plus tard, où j'ai compris, lorsque j'ai eu mon premier travail en informatique, mon patron de l'époque était chrétien, m'a donné une Bible, m'a amené à l'église, et ce soir-là, à l'église, la petite voix, elle est revenue, mais elle m'a convainc de m'avancer à un appel qu'il y avait. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai compris que peut-être l'événement du Royal n'était pas une coïncidence, mais que Dieu avait un but et que pour ça, il devait me garder. Donc, je reviens au verset de 1 Pierre. Le verset contient un mot important, c'est le mot « apologia », duquel on tire en français les mots « apologie » ou « apologétique ». Et on sait que l'apologétique, c'est la partie de la théologie qui s'occupe de la défense de la foi. Une apologie, c'est donc une défense, c'est une réponse réfléchie, c'est une explication articulée, bien ficelée et crédible. En théologie, souvent, c'est la défense d'une doctrine, c'est la défense de la foi elle-même, ça peut même être la défense d'une personne. Paul, dans Actes 22, lorsqu'il se fait arrêter, il va dire aux gens, écoutez-moi, écoutez ce que j'ai à dire pour ma défense. Et encore une fois, c'est le mot apologia qui est là. Ceci dit, pour qu'une défense soit convaincante, une défense, moi, un de mes bons vieux amis, le philosophe Aristote, disait que pour qu'un discours soit convaincant, un discours doit faire appel à trois notions de rhétorique. La première notion, c'est un mot que vous connaissez très bien à cause de l'Évangile de Jean. La première notion, c'est le « logos ». Que dans ce contexte-là, a un sens un peu différent que dans l'Évangile de Jean. La deuxième notion, c'est l'éthos. Et la troisième et dernière, c'est le pathos. Maintenant, je sais, je vous agresse avec du grec ce matin. Et en faisant ça, je suis en train de travailler sur mon éthos. Alors, vous allez comprendre ça dans quelques minutes. Donc, le logos, c'est l'appel à la logique. Lorsqu'on veut convaincre quelqu'un, on a intérêt d'avoir des bons arguments. On a intérêt d'avoir une logique implacable qui est bien ficelée, qui s'appuie sur des faits avérés, des faits reconnus. Et évidemment, ça, dans le contexte de l'Épître de Pierre, c'est très, très clair. Le fait avéré, c'est la résurrection de Christ. Il va dire dans 1 Pierre 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. La raison théologique derrière notre espérance, c'est réellement la résurrection de Jésus. » Plus loin, il va dire, « Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, notre espérance, c'est le retour de Christ. Mais la raison de notre espérance, c'est le fait que Christ est ressuscité. Paul va dire la même chose dans 1 Corinthiens 15, hein, le chapitre de la résurrection dans la Bible. Il va dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. si Christ est ressuscité, on n'a pas d'espérance. On est encore dans nos péchés, on n'a aucune espérance. J'aime beaucoup parler de la résurrection, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ce matin. On a beau, un orateur, okay, a beau être très compétent, avoir un excellent discours, s'il n'a pas de crédibilité, là, c'est là que ça se gâte. Okay? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez penser à certains politiciens au sud de la frontière, par exemple. OK? Donc, et ça, c'est la dimension éthos dans un discours rhétorique ou un discours apologétique. Il faut avoir de l'éthos, il faut avoir de l'éthique. Et ça, c'est une grande partie de la lettre de Pierre qui nous touche beaucoup, je crois, ici au Québec. C'est un appel que Pierre, dans sa lettre, va, à partir du chapitre 2, verset 11, va inviter les croyants à vivre différemment. Il va leur donner toutes sortes d'instructions. Comment vivre en société? Comment les esclaves doivent se comporter avec leur maître? Quand Pierre dit ça, en passant, il n'est pas en train d'approuver, n'est-ce pas, l'esclavage. Hein? Il est en train de leur dire, mais vous devez avoir une foi, un mode de vie qui dérange. Dérange dans le sens qui se remarque. Un mode de vie qui fait que les gens posent la question, mais pourquoi? Pourquoi tu crois? Parce que l'exhortation de Pierre, il faut bien comprendre dans le verset, au chapitre 3, verset 15, quand les gens demandent raison de votre espérance, il faut d'abord qu'ils la voient, cette espérance-là. Il faut qu'ils voient que vous avez quelque chose de différent, sinon ils ne vous poseront même pas la question. Si je me pointais devant vous ce matin et que je vous disais, j'ai réfléchi la semaine dernière et j'ai compris la Trinité et je vais vous expliquer ça ce matin. Probablement que je n'aurai pas beaucoup votre attention, OK? Mais si Dr. Kenzo se présentait devant vous, voulait vous parler de la Trinité, il enseigne sur ce sujet-là, c'est un expert, il a écrit un livre, il a écrit des articles. Son éthos, OK, sa compétence en la matière fait que ça inspire le respect, ça inspire qu'on doit l'écouter. Il y a une autre façon d'inspirer le respect, c'est lorsque, comme on dit en français, on a une expression, l'expression dit « il faut que nos bottines correspondent à nos babines ». Il faut que nos actes soient en ligne avec nos paroles. Et ça, c'est l'intégrité d'une personne. Et donc, dans ce contexte-là, Pierre va dire aux gens d'Asie mineure, il va adresser face à l'État, vous devez vivre comme ceci, les esclaves par rapport à leur maître, les femmes par rapport aux maris, les maris par rapport aux femmes. Il va donner un paquet d'instructions de sorte que ces gens-là, leur vie détonne du reste de la population et les gens leur posent la question, mais pourquoi? Pourquoi tu crois? Ça sort d'où? Cette espérance, cette espérance-là que tu as. Donc, l'État s'est établi en fonction de notre expertise, mais aussi en fonction de notre intégrité. Je suis un petit peu perdu. Donc, le but, c'est ça. Le but, c'est d'avoir une vie qui dérange, une foi et une éthique de vie qui suscite des questions. Leur foi les rendait différents, donc dérangeants. Aujourd'hui encore, vivent avec intégrité et espérance dans un monde cynique, comme le Québec, ça peut susciter des questions. Maintenant, il y avait une troisième dimension. Il y a une troisième dimension dans le discours rhétorique de ce bon vieux Aristote, c'est la dimension pathos. Et ça, c'est l'appel aux émotions. Donc, lorsque j'utilise ce procédé rhétorique-là, j'essaie de connecter émotionnellement avec l'auditoire à qui je m'adresse. OK? je reviens à Acte 22, quand Paul est arrêté. Paul n'a même pas commencé à s'expliquer encore. Il fait simplement leur dire, « Laissez-moi vous parler pour ma défense. » Et là, déjà au verset 2, tout d'un coup, les gens deviennent très calmes et écoutent. Pourquoi? Parce qu'il leur parle en hébreu. Donc, il ne leur parle pas en grec, qui était le grec de l'époque. Il ne leur parle pas en araméen, il leur parle en hébreu. Et là, les gens réalisent, « Oh, ce gars-là, c'est un gars qui connaît la loi. » C'est l'hébreu, c'est la langue du temple, la langue de la synagogue. Et là, déjà, il y a une connexion émotionnelle avec eux. Cette dimension-là, c'est lorsqu'on partage des valeurs communes, lorsque des modes de vie communs, c'est de connecter vraiment avec les gens. Et c'est l'autre domaine qui peut rendre un discours apologétique, crédible. J'aimerais vous suggérer que dans la lettre de 1 Pierre, ces trois dimensions-là sont suscitées dans la lettre de 1 Pierre. Évidemment, le logos, je vous l'ai dit tantôt, la raison logique, c'est la résurrection de Jésus. L'éthos, Pierre appelle à une vie honorable, une vie qui dérange, une vie qui suppose, qui amène les gens à poser des questions. Et il nous appelle tous à vivre ainsi. Et la dernière dimension, la dimension émotionnelle, Pierre rejoint les croyants dans leur souffrance. On voit ça, par exemple, au chapitre 1, versets 6 et 7. Je vous lis le verset. Désolé, les pages sont tellement minces. Pierre va leur dire, au verset 6 et 7, « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. » Pierre va les rejoindre dans leur... Il va parler de leur épreuve, il va les rejoindre il va les rejoindre dans leurs souffrances, dans leurs épreuves. Et donc, Pierre, dans son apologétique, va toucher la raison, le logos, va toucher la conscience et va toucher le cœur. Il prône, il a un fondement solide théologique, la résurrection. Il les encourage à avoir une éthique de vie, la façon dont ils se comportent, et il s'identifie à eux, à leur souffrance. Si je vous demandais quel est l'exemple par excellence d'un bon apologète dans la Bible? Je vous lance la question. Donnez-moi l'exemple par excellence d'un bon apologète dans la Bible. Personne ne veut se risquer? Paul? J'oserais dire encore mieux que Paul. Étienne? OK. Étienne, c'est un bon... Ouais. Un autre. Jésus, voilà. Est-ce que Jésus, dans son discours, a fait appel au Logos? Il n'a pas fait appel au Logos. Il était le Logos. Jésus n'a pas simplement incarné le message. Il était le message. Est-ce que Jésus, dans sa vie, a fait appel au deuxième procédé qui est l'éthos? Personne ne veut se risquer? Je vous laisse en juger. Je vous lis un texte. Quand il a été insulté, il n'a pas rendu par l'insulte. Quand il a été trahi, il n'a pas frappé. Quand il a été crucifié, il a prié, « Père, pardonne-leur. » Pierre, dans sa lettre, il fait référence directement. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui a insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus avait une éthique de vie, évidemment, implacable. Il n'y a personne ici qui arrive à la cheville de la vie de Jésus. Est-ce que Jésus a fait appel au troisième procédé, la connexion émotionnelle avec les gens? Je pense que, encore là, c'est assez évident. On a juste à penser, par exemple, à la Samaritaine au puits, comment Jésus est capable de connecter avec elle. Et comment cette femme-là, lorsqu'elle retourne dans son village pour chercher les autres, comment elle est excitée de qu'elle a rencontré cet homme-là qui lui a dit tout ce qui la concernait. Okay. Ou l'aveugle au puits, qui c'est l'aveugle de naissance qui a été guéri et qui repart tout content parce que Jésus avait cette capacité-là de voir au cœur, de voir le vrai besoin des gens et de connecter émotionnellement avec leurs besoins. Et si on veut avoir un témoignage qui a de la force, qui arrive à ses fins, et peut-être que Tim, c'est quelque chose que tu vas te rappeler lorsque tu seras en mission pour les prochaines semaines. Il faut avoir un argument, il faut avoir des arguments qui se tiennent, il faut avoir une vie qui dérange. Il faut avoir une éthique de vie qui suscite des questions, mais surtout, il faut connecter avec les gens. Et ça, au Québec, c'est tellement important. Les gens au Québec ne voient pas... les gens au Québec croient que la foi, ça ne sert plus à rien. Comment je suis dans le temps? J'ai complètement oublié de regarder ma montre. Non, mais je suis à combien? 20 minutes peut-être? 30, 20, 25? OK, ben c'est bon, je suis correct. Et donc, il y a plusieurs années, je vous donne un autre exemple personnel. Il y a plusieurs années, il y a une personne qui était très près de moi. J'ai passé beaucoup de slides. Marc, tu pourras peut-être les donner aux gens s'ils les veulent, les rendre disponibles. Il y a plusieurs années, une personne très proche de moi m'a fait beaucoup de mal. Je ne donnerai pas les détails, mais peut-être que certains d'entre vous comprendraient. Et cette personne-là, j'ai continué à la traiter avec respect. J'ai continué à remplir mes obligations envers cette personne-là. Et les gens autour de moi, ma famille, mes amis, ne se possédaient plus. Ils me disaient, « Mais Marion! » Laisse-toi pas faire comme ça. Mario, qu'est-ce qui va pas, là? Qu'est-ce que t'as... Je comprends pas, là. Cette personne-là te fait du mal et toi, tu la traites avec respect. Qu'est-ce que tu comprends pas? Puis moi, je leur disais, mais c'est à cause de mon espérance. Ton espérance, mais de quoi tu parles? Comment tu peux espérer encore? Puis là, je leur disais, mais tu veux savoir pourquoi? Pourquoi j'espère encore? Je vais te le dire. C'est parce qu'il y a plusieurs années, moi aussi, j'ai fait beaucoup de mal à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là a continué à m'aimer. Et ce quelqu'un-là a même donné sa vie pour moi. Et là, les gens me disaient, « Ah, OK, tu parles de... Tu parles de ton Jésus, là. » Oui, je vous parle de mon Jésus, mais la beauté, c'est que les gens, à ce moment-là, là, ils arrêtaient de parler et ils m'écoutaient parce qu'ils voyaient que ce message-là, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu dans ma vie, me permettait d'aimer quelqu'un qui n'était pas aimable, de traiter quelqu'un d'une façon où tout le monde me disait, mais non, ça n'a pas de bon sens, Mario, tu te laisses, laisse-toi pas faire. Et il voyait que la foi changeait quelque chose dans ma vie. Et ces gens-là étaient tout d'un coup, devenaient tout oreille et m'écoutaient. Le monde autour de nous, le monde aujourd'hui, cherche des réponses. Il ne veut pas des théories. Ils veulent des vies cohérentes, des histoires vraies, une espérance visible. Notre rôle, comme Pierre nous y invite, c'est pas d'avoir réponse à tout, mais c'est d'être prêt à témoigner avec douceur et respect de notre espérance. Et évidemment, les deux histoires que je vous ai racontées, autant celle du bar que la dernière, mon espérance n'est pas fondée sur ça. Mon espérance, elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle est fondée sur ce que Jésus a fait. Mais la résurrection de Jésus peut donner du sens à toutes sortes d'expériences qu'on vit qui pourraient être des expériences banales, mais qui tout d'un coup prennent du sens parce que Jésus est au courant et Jésus est au contrôle de ces expériences-là. Et donc, cette espérance-là, elle est vivante, elle est offerte, elle vous est offerte, elle est pour nous. Et donc, je vais terminer en priant parce que je suis déjà à la fin. J'avais dit à Marc que je respecterais le 30 minutes. Alors, j'ai coupé beaucoup parce que ceux qui me connaissent, Marc me connaît pour avoir fait des travaux pour lui. On me demande 8 pages, j'en fais 15. Donc, voilà. Je vais prier. Seigneur, tu vois chacun ici. Tu connais leur histoire. Tu connais ceux qui doutent. Tu connais ceux qui souffrent. Tu connais ceux qui cherchent. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous gardes même quand on ne te voit pas. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui entendent ce témoignage, ce message, tous ceux qui l'ont écouté, je te prie qu'ils soient encouragés à te chercher. Je te prie, Seigneur, qu'ils soient encouragés à rassembler les morceaux de leur histoire. Parce que je suis certain que chaque personne qui est ici, dans leur vie, Seigneur, t'a fait des grandes choses. Et je te prie qu'ils puissent ramasser les morceaux afin d'être capables d'en rendre compte et d'expliquer, pas simplement de dire qu'ils croient en toi, mais d'être capables d'expliquer le pourquoi, la raison de leur espérance, comme Pierre invitait les gens il y a 2000 ans, mais qu'il nous invite encore à être capables de le faire aujourd'hui. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que je t'ai prié. Amen.